Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence, bienvenue sur Point d'Orgue. Alors, chose promise, chose due, je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui nous allons évoquer le début de la messe. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer dans les semaines à venir, dans un voyage entourant tous les morceaux de la messe, et bien sûr, nous allons commencer par le premier morceau qui est le Kyrie. Alors le Kyrie, qu'est-ce que c'est tout simplement? Où est-ce qu'il se situe déjà? Il se situe dans la messe au tout début, entre l'introït et le Gloria. Kyrie eleison, c'est la phrase qui est prononcée au début de la messe et qui veut dire tout simplement Seigneur, aie pitié. C'est la prière qui permet véritablement d'entrer dans l'Eucharistie et qui a été véritablement officialisé dans le missel romain à partir du Concile de Trente en 1570. Le Kyrie eleison fait partie de la préparation pénitentielle de l'Eucharistie, donc il a véritablement sa part dans l'action de grâce. Et là, c'est un texte qui est très fort, et qu'on va comprendre notamment par le biais de la musique, en tout cas vous allez le voir, c'est quelque chose qui relève en grande partie de la supplication. Il y a une forme d'intimité totale entre la personne qui demande au Seigneur pitié et Dieu. Il y a véritablement une très belle connexion. Et c'est ça que les musiciens ont essayé de mettre en avant au fil des siècles. Alors, je vais vous proposer de commencer par une première approche qui est très 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 particulière. C'est celle du compositeur Rossini, qui est un compositeur italien, qui a écrit en 1864 la Petite Messe solennelle. C'est une petite messe qui est très particulière à entendre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais d'abord, je voudrais commencer en vous disant de manière un petit peu humoristique quelle a été la dédicace de Rossini, du compositeur, qui dit au créateur, donc à Dieu, une petite boutade au début de sa petite messe. Bon Dieu, la voilà terminée, cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou de la sacrée musique? J'étais né pour l'opéra bouffe, tu le sais bien. Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le paradis. Alors le côté peut-être un peu bouffe, on va le retrouver dans la façon d'écrire et la façon d'écouter la musique, parce que l'orchestration est assez particulière. Elle a été écrite pour deux pianos et pour harmonium, en plus des voix. Et ça, c'est tout à fait particulier. Vous allez voir, ça donne un style tout à fait particulier. Alors, je vais vous laisser écouter ce Kyrie, mais d'abord, je vais un peu vous parler de sa structure rapidement. Vous avez une première partie avec le piano qui joue une forme d'ostinato. Ostinato, ça veut dire obstiné en italien. Donc c'est un motif qui revient. Et l'harmonium qui vient s'infiltrer dans la musique et peu à peu le chant qui s'élève. Au milieu du Kyrie, c'est tout à fait incroyable, vous avez un double canon qui s'ouvre et puis qui est incroyable parce qu'il est sans accompagnement. Et il est d'une forme très archaïque, très ancienne, complètement hors du temps. Et puis une fois que le Christ se termine, on retourne au Kyrie, et là, on retourne dans les couleurs premières. C'est donc avec Rossini et les contrastes de la petite messe solennelle que je vous laisse.
Thank you.
Voilà, c'est donc la petite messe solennelle de Rossini, le Kyrie de cette petite messe, qui est intéressant, très intéressant à mon sens, dans la mesure où effectivement il est extrêmement contrasté et finalement cela prouve toute la complexité de s'adresser à Dieu et de le supplier de reconnaître en même temps que nous sommes pécheurs. Alors, d'une petite messe solennelle, je vous propose de passer à une grande messe solennelle. Quelque temps les sépare. Il s'agit de la messe solennelle de Louis Vierne. Alors, je vous avais déjà parlé de Vierne dans des précédentes émissions. Donc, il s'agit de l'organiste de Notre-Dame de Paris au début du XXe siècle. Ça a été un organiste absolument fabuleux et il a eu des compositions absolument géniales, dont cette messe solennelle, son opus 16 en 5 mouvements, donc le Kyrie est le premier mouvement de cette messe, et c'est un Kyrie qui a été écrit maestoso, ma non troppo lento, ça veut dire majestueux mais pas trop lent. Et vous allez voir que l'aspect majestueux est là absolument présent. Il faut savoir que cette messe avait initialement été écrite pour un grand orchestre en plus des chœurs. Mais le professeur de Vierne, Charles-Marie Vidor, un autre très grand organiste, lui a conseillé plutôt de modifier sa partition de sorte à ce qu'elle intègre plutôt le grand orgue, qui est bien entendu bien plus présent dans les églises. Alors vous allez voir l'aspect totalement orchestral de l'œuvre. Là on est sur un Kyrie qui est très différent. Il y a également du contraste, vous allez le voir entre le Kyrie et le Christe, et puis de nouveau le Kyrie, mais vous allez voir l'aspect solennel, l'aspect majestueux des grandes églises de Paris, qui en même temps cohabite avec quelque chose de beaucoup plus particulier, un aspect parfois torturé, vous allez le voir dans cette magnifique version. une version de ce fameux Kyrie de Vierne, chanté par la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, à l'orgue de chœur Yasko Bouvard, au grand orgue Michel Bouvard et votre serviteur qui était à la baguette pour ce Kyrie qui avait été chanté pour le festival Toulouse Les Orgues. Alors, si je voulais vous faire partager ce Kyrie qu'on peut évidemment pas chanter ni entendre tous les dimanches, c'est juste pour vous montrer effectivement peut-être quelle a été l'ambiance dans certaines églises au siècle dernier. Je pense que c'est intéressant de pouvoir réactualiser ce patrimoine dans certaines circonstances exceptionnelles. Je pense également que ce Kyrie, on peut peut-être lui faire le reproche d'être un peu concertant, puisqu'il avait été écrit pour orchestre, et je pense que ça se ressent tout à fait. On peut peut-être lui faire ce reproche, mais à côté de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus intime, finalement, dans l'écriture, et c'est ça que je voulais mettre véritablement en exergue. Effectivement, outre l'aspect extrêmement solennel, extrêmement puissant, notamment dès le premier accord du grand orgue, où on comprend qu'on va être face à une pièce d'une ampleur immense, il y a des choses qui sont beaucoup plus contrastées, notamment au niveau du Christ, et quand vous avez les hommes seuls qui commencent à faire surgir la musique, on sent le côté de la terre qui monte vers le ciel. Il y a un mouvement extrêmement ascendant et qu'on reconnaît au fur et à mesure de l'œuvre. Peu à peu, vous avez, après que le Christé se soit interrompu, vous avez le Kyrie qui revient, d'abord presque en sourdine avec le fond de l'orgue, les 32 pieds, puis peu à peu l'ampleur se fait, l'œuvre se développe, elle prend son envol véritablement, et on se retrouve face à quelque chose de colossal, mais quelque chose qui envoie vers le ciel. Et là, on est totalement dans la supplication. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un Kyrie qui mérite beaucoup d'attention. Et si je me suis permis de vous en reparler, et surtout de vous montrer, de vous faire écouter ce Kyrie, c'est parce que j'aimerais vous montrer quelque chose maintenant, de totalement différent. Alors je ne vais pas vous en parler, je vais tout simplement vous le faire écouter, et on en reparle après. Je pense que c'est un moment qui est à mettre véritablement en parallèle à ce que vous venez d'entendre sur les messes solennelles. avez entendu l'impressionnant kyrie de la Missa Syllabica de Arvo Pärt, chantée par l'Estonia Philharmonic Chamber Choir. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est deux églises, deux ambiances. On est dans quelque chose de radicalement différent. Autant avant, vous avez pu entendre quelque chose de contrasté, de quelque chose de presque jovial, intérieur puis jovial. Ensuite, vous avez entendu quelque chose de totalement solennel, totalement exubérant et christique dans la façon la plus totale de voir les choses. Et là, au contraire, on est dans l'intimité la plus totale. Ça me rappelle ces moments dans l'écriture où Dieu, finalement, se trouve dans le souffle du vent. Je crois que c'est parfaitement dans cette interprétation qu'il faut l'entendre, ce kyrie. Alors, Arvo Pärt, il faut savoir que c'est un grand compositeur qui a beaucoup œuvré ces dernières années pour la musique liturgique et qui a inventé un style tout à fait particulier qui s'appelle le style tintinambuli, c'est-à-dire un petit peu comme des cloches qui résonnent. Et c'est totalement ce qu'il se passe ici, dans ce kyrie, où vous avez une voix, un chant qui est très très facile, que tout le monde pourrait chanter, mais finalement qui est insaisissable parce que vous avez une deuxième voix qui s'entremêle à la première et on se perd. On ne sait pas où on en est. Et c'est ça qui est extraordinaire, ça fait naître une forme d'inconfort. On attend la résolution de ce kyrie et qui est parfaitement dans son rôle de supplication du pécheur qui s'adresse à son créateur. Pour moi, c'est une petite merveille de l'écriture contemporaine et je tenais à vous la faire partager. Voilà pour ce panorama des kyrie. Je n'ai pas pu beaucoup m'exprimer parce que je voulais vous faire découvrir plusieurs morceaux et les kyrie sont assez longs, en tout cas quand on s'adresse au grand répertoire, donc je ne peux pas, hélas, aller beaucoup plus loin. Mais j'espère que vous avez pu voir toute la complexité qu'il pouvait y avoir au sein du répertoire dans une même messe, finalement. Et c'est cela que nous allons voir dans les semaines à venir en explorant les autres chants de la messe. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine où nous explorerons le Gloria.